Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti! Des ronds-points à l'hôtel Ibis, elles sont debout. Ce sont les femmes grévistes, ce sont d'elles dont on va parler cette semaine avec Kiémis. Salut, bienvenue.
Salut, salut Clem.
Ça va?
Ouais, ça va et toi?
Ça va, écoute, je déménage.
Ah bon?
Voilà. Ah bon, la meuf surprise.
Non, je te jure que... Genre, bref.
Alors, du côté des news féministes cette semaine, on a été manifestés, voilà, on en reparlera un peu plus tard dans le bilan de l'année. Mais surtout, ce qu'on peut noter du côté du monde de l'édition, qui tremble, c'est que la librairie Violette & Co. Va mettre sans doute la clé sous la porte.
Sniff, franchement,
ouais.
Je suis trop triste, quoi.
Parce que les deux responsables ont annoncé donc leur décision de vendre la librairie. Donc c'est, on rappelle, la seule librairie parisienne féministe et LGBT+. Donc c'est Catherine Florian et Christine Lemoine qui sont les deux responsables. En fait, elles ont ouvert la librairie en 2004. Donc là, elles ont posté un message sur Facebook évoquant un départ à la retraite. Alors, est-ce qu'on pourrait pas peut-être racheter collectivement cette librairie et la faire fonctionner en collectif?
On devrait faire un scope ou un truc comme
Oui, c'est ça, ou une cagnotte, je ne sais pas. Donc, contactez-nous si vous,
si vous avez des idées pour
si
la soirée.
Si vous avez des envies, parce que nous, on veut bien mettre la main à la pâte et quelques sous dans l'affaire.
Voilà. Sauvez Violette & Co.
Oui. Et alors, pour parler du sujet qui nous occupe cette semaine, donc celui des femmes grévistes, je te laisse commencer.
En ce moment, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de grève, et notamment de la grève du 5 décembre qui a été appelée par les cheminots et la RATP, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de collectifs et de syndicats qui appellent à la grève cette journée.
Tous et toutes dans la rue.
Et il faut le dire, en fait, on parle pas beaucoup de la grève en bien. Elle a souvent mauvaise presse, mais je pense que c'est important de rappeler que c'est un moyen d'action qui a été pas mal utilisé par les femmes et qui continuent à l'être pour obtenir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est l'égalité. Et c'est le cas dans le monde du travail, parce que là, on parle beaucoup de grève dans le monde du travail, mais aussi dans les luttes pour les droits des femmes.
Oui, alors il faut rappeler que dans l'histoire des insurrections populaires, mais aussi dans la sociologie du travail et dans ce qu'on a appelé la construction des populations subalternes, évidemment, on a souvent oublié les femmes et certaines plus que d'autres. Mmh. D'ailleurs, maintenant, on parle de mouvement social sexué pour parler en termes sociologiques. Mmh. Et donc, pour pouvoir bien parler de ces questions-là, il faut questionner certaines idées reçues qu'on peut avoir sur une éventuelle sous-participation des femmes à l'action collective, c'est-à-dire une sous-représentation des femmes dans les espaces militants qu'on considère comme étant plus contestataires, comme donc les syndicats marxistes, par exemple, les mouvements ouvriers, etc. Et évidemment, les femmes en grève dans des mobilisations mixtes ont, elles aussi, été moins étudiées. On n'est pas surprise.
C'est d'ailleurs dans ce sens, en fait, et pour justement renverser cette invisibilisation, que l'historienne des femmes, Michèle Perrot, a travaillé. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle a souvent pas réussi à trouver le nom de meneuse de grève féminine au 19e siècle. Et elle dit, donc je cite, « La grève est un acte viril au point de départ, le travail productif, ce sont les hommes. » Donc en gros, il faut braver une double opposition, donc l'opposition donc masculine et l'opposition du patronat, j'avais dit du patriarcat, mais souvent c'est la même chose.
Oui, c'est ça.
Et souvent, en fait, le premier obstacle à la grève des femmes, c'est pas les chefs, c'est les maris. Donc t'as Hélène Brion, qui est institutrice, qui est féministe et syndicaliste CGT, qui raconte dans La Voix Féministe, qui est un manifeste qui a été paru en 1917, elle explique en fait un exemple tiré de la grève qui a eu lieu 5 ans plus tôt à la raffinerie de Le Body. Donc, une femme qui arrive, pleurante, meurt de honte, suivie par un homme qui a coup de trique et de pied et la force à avancer, bah, c'est une gréviste de la veille et de l'avant-veille que son tsar ramène au travail parce que ça lui déplaît que sa femme fasse grève.
Mention spéciale au terme tsar.
Je te jure, en 1917 en plus, j'adore.
Oui, donc c'est vrai que ça a souvent été très transgressif de faire grève, d'autant plus que c'était déjà mal vu de travailler pour les femmes et que donc on passait parfois pour, je cite, une roulure en faisant grève. Donc effectivement, l'histoire a souvent minoré le rôle des femmes. C'était déjà le cas d'ailleurs dans l'historiographie des conflits armés, dans l'histoire de la Révolution française, où on réduit souvent les femmes à simplement demander du pain, on les cantonne à des rôles d'arrière-garde, et de logistique. Donc voilà, donc on va se demander en fait quels scripts sexuels sont à l'œuvre dans les grèves féminines. Comment est-ce que les femmes vont performer leur féminité? Comment est-ce qu'elles vont ou non contourner les normes de genre? Et tout ça, ça va parfois prendre des formes innovantes. Alors on entend souvent que les femmes feraient plutôt la grève pour la paix, avec comme moyen la non-violence. Et alors en fait, surtout, ce qu'elles vont d'abord imposer dans le discours, c'est de réclamer des meilleures conditions de travail, alors que les hommes, eux, se sont davantage focalisés sur le salaire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, évidemment, c'était les premières à souffrir de harcèlement sexuel, ce qu'on appelait au 19e siècle les mauvaises conduites des contremaîtres. Voilà, ça en dit long sur ce qui se passait.
Quel euphémisme.
C'est ça. Et donc ça peut... Effectivement, ça pouvait déjà être un motif de grève, donc ça fait longtemps que ces questions-là sont problématiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que les mouvements de femmes sont généralement plus spontanés, pas parce que c'est dans leur nature, mais simplement parce qu'elles sont généralement moins syndiquées historiquement. Mmh. Et il y a une chercheuse qui parle un peu de ces questions-là, c'est Johanna Siméan. Elle raconte que plus on est précaire et moins on a de ressources à mettre en jeu, plus on met en jeu son propre corps. C'est le cas, par exemple, des grèves de la faim pour les personnes sans papier. Donc c'est aussi une manière de regagner de la capacité d'agir quand on vous dit que vous n'existez pas.
Un des traits distinctifs des grèves de femmes, c'est aussi les chansons qui sont révolutionnaires. Donc Michel Perrault, toujours, qui est cité par la revue Regard, dit... Elles aiment beaucoup faire charivari, elles prennent des casseroles, des poêles, des attributs féminins, dit féminin, et tapent dessus. Les hommes ne font pas ça quand ils sont tout seuls. Dans les années 20, les sardinières bretonnes se serrent les coudes pendant que les marins sont en mer et résistent 50 jours. On les écoute.
Écoutez, elles brillent leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez, elles brillent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Oui, donc effectivement, pour parler des grèves féminines et de la place des femmes grévistes aujourd'hui, c'est important de rappeler que dans l'histoire, il y a eu des précédents et des précédents qui ont notamment été oubliés. Enfin, en tout cas, moi, avant de préparer cet épisode, je ne connaissais absolument pas la première grande grève de femmes en France. C'est la grève des ovalistes à Lyon en 1869. Donc souvent, quand on parle des grèves à Lyon, on parle généralement de la révolte des canuts et on invisibilise donc les femmes. Donc la grève des ovalistes, c'est un moment qui est assez peu connu en fait et qui concerne principalement les ouvrières de la soie. Ils étaient environ 4000 à l'époque, ce qui est quand même énorme. Mmh. Et évidemment, comme souvent, les femmes avaient des conditions de travail plus pénibles que les hommes. Elles étaient moins payées à travail égal. Surprise. Donc, quand on parle d'ovaliste, c'est le fait de traiter et de préparer la soie avec un moulin. Et donc, souvent, ces femmes étaient des immigrantes, donc pas comme aujourd'hui, mais des immigrantes rurales, donc qui venaient des campagnes vers les villes. Et elles se sont mises à protester parce qu'elles étaient payées 1,40 francs la journée de 12 heures. Donc aujourd'hui, ça peut sembler très peu, mais à l'époque, c'était également très peu. Et en plus, elles étaient souvent logées dans les ateliers, en fait, dans des conditions vraiment déplorables et surpeuplées. Donc, à l'été 1869, elles décident de se mettre en grève. Elles demandent même l'aide du préfet. Elles reçoivent également le soutien du syndicat de l'époque. Elles demandent aussi de la solidarité du côté des ouvriers hommes. Elles sont arrêtées par la police. Leur patron, qui vraiment ne manque pas de ressources, font même venir la concurrence des ouvrières italiennes. Et finalement, après plusieurs semaines de lutte, elles n'obtiennent rien. Et elles reprennent le travail. Donc voilà, c'est vraiment un échec cuisant. Mmh. Mais au moins, ça reste quand même un exemple auquel les femmes pourront ensuite se référer.
Du coup, moi, je vais donner un exemple de grève qui a réussi. Ça arrive...
Ouf, il y en a quand même un peu.
Ouais, c'est clair. Ça arrive un siècle plus tard, en 1975, en Islande. Il y a la grève des femmes qui a été appelée le Long Friday, c'est-à-dire le Vendredi long. Donc, en 1975, comme je vous le disais, les femmes islandaises ont décidé de lutter contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Toujours, pas étonnant. Donc, en gros, il y a un collectif qui a appelé le Red Stocking, c'est-à-dire les bas rouges, qui décide d'appeler à un jour off pour lutter contre les inégalités salariales et la lutte contre le patriarcat. Et ceci se fait en collaboration avec des organisations féministes et féminines. Il faut bien comprendre que le collectif de Red Stocking décide de passer par le jour off, donc le jour de repos, pour justement éviter de braquer et n'utilise pas le mot grève, même si c'en est une. Donc le 24 octobre 1975, il y a 90% des femmes islandaises qui ont décidé de ne pas aller au travail, de ne faire aucune tâche ménagère, de ne pas s'occuper des enfants. Et donc du coup, 90% des femmes islandaises, je pense que j'ai jamais vu ça.
C'est énorme.
C'est
ouais.
énorme, en sachant qu'elles formaient le gros de la masse salariale de l'industrie de poissons, qui est très importante en Islande. En gros, les usines ont dû fermer. Donc, ce jour-là, il y a eu de nombreux concerts, des activités, des prises de parole qui ont eu lieu notamment dans la capitale islandaise. Et pendant ce temps, les hommes durent occuper leurs enfants.
Incroyable.
Et en les amenant au travail, apparemment, ils avaient prévu des crayons pour occuper les enfants. Et un plat particulièrement donc de la saucisse, qui est un plat tout fait, qui a été en rupture de stock parce que les mecs, en gros, ils n'étaient pas habitués à faire à manger.
Problème de saucisse.
Voilà, donc l'année d'après, l'Islande passe à une loi qui interdit les écarts de salaire et donc du coup, une grosse réussite.
Ouais, efficacité totale ouais. de cette grève. Et alors évidemment, dans notre histoire, on ne peut pas parler des grévistes français et françaises sans évoquer mai 68, qui a quand même été, il ne faut pas l'oublier, une révolution un petit peu à sens unique, qui a surtout favorisé les hommes. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a, donc c'est pas une vidéo, mais c'est une scène dans les actualités télévisées de l'époque, qui va être vue à peu près par toute la France. Et c'est le plaidoyer d'une ouvrière des usines Wonder. Donc Wonder, c'est donc les piles, qui explique pourquoi elle ne veut pas reprendre le travail. Elle dit qu'elle ne veut pas retourner dans cette tôle. On l'écoute.
La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen.
Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer.
Non, moi je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires. Hein. Faut le voir. Vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent là. Taillot avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire de toute façon. Alors.
Et alors ensuite, en 1995, un film qui s'appelle Reprise d'Hervé Leroux va essayer très tardivement de retrouver cette femme anonyme. Et donc la chercheuse Fanny Gallo, qui n'a aucun lien de parenté avec moi d'ailleurs, je le précise, dans son livre sur les ouvrières En découdre, écrit « À chaque fois, l'héroïne est une ouvrière introuvable. Chaque fois, elle a pris la parole, refusant de reprendre le travail ou de signer un avertissement pour bavardage. L'une a fait grève, l'autre s'est trouvée licenciée avant que la grève ne démarre. La première travaille dans une usine mixte et la seconde dans une usine composée à 98% de femmes. À chaque fois, le nom de l'ouvrière a été oublié, comme souvent lorsqu'il s'agit de femmes. »
Je pense que en parlant de mouvements socio-cultes, il faut aussi se souvenir que pendant les grandes grèves de mineurs des années 80 en Angleterre, sous l'Angleterre de Margaret Thatcher, les femmes ont fait des collectes d'argent et ont fait toute la nourriture, y compris ont organisé une soupe populaire pour nourrir toutes les familles. Et elles étaient aussi au devant des manifs et des arrestations. D'ailleurs, elles avaient leur propre chanson. We are women, we are strong, we are fighting for our lives, side by side with our men, who works the nation's minds, united by the past, and it's here we go for the women of the working class.
Yay!
On note que la participation politique à ce moment-là leur a permis de ne pas redevenir femmes au foyer. D'ailleurs, certaines se sont mises à travailler et d'autres ont même fait carrière en politique.
Waouh, pas mal, donc comme tremplin. Et alors, plus proche de nous, évidemment, on ne peut pas éviter de parler du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il faut quand même rappeler que le mouvement est né en partant des femmes.
Clairement.
Donc, Priscilla Ludowski, qui est une auto-entrepreneuse de Seine-et-Marne, avait mis une pétition en ligne pour dénoncer le prix du carburant. Ça, c'était le 29 mai 2018. Ensuite, c'est Jacqueline Moureau, une retraitée de 73 ans, qui a pris le relais en postant une vidéo qui a mis le feu aux poudres. On l'écoute.
Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là ? Parce que là, on atteint des sommets.
Et donc, selon elle, les femmes n'ont pas eu besoin qu'on leur fasse une place. Elles l'ont prise car ce sont elles qui tiennent les comptes et qui se demandent tous les soirs comment finir le mois. Bon, même si de son côté, Jacqueline Mourot a vraiment pris du recul par rapport au mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, elle ne veut plus en entendre parler. Et ces jours-ci, autour de nous, il y a une autre figure qui émerge dans les grèves. C'est la figure historique qu'on appelait celle de la soubrette, de la boniche. Donc, ce sont les femmes de chambre, des figures de l'ombre qu'on entend assez peu, qui sont souvent des femmes précaires et ou racisées. Enfin, on les entend peu, sauf dans le cas de faits divers comme celui des sœurs Papin, donc qui avaient assassiné leur patron. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bien sûr. En gros, depuis le 17 juillet dernier, il y a 28 femmes qui ont annoncé un préavis de grève illimitée à l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris. Et elles dénoncent notamment les conditions de travail et le salaire. Donc 800 à 900 euros bruts par mois, c'est pas des masses à Paris, quoi.
Ça donne mal au dos, et on a des tendinites, on a le canard capien, on a des épaules qui sont des femmes de chambre qui sont déboîtées. Moi-même, j'ai eu la tendinite, j'ai fait une infiltration. Et tout là, j'ai fait là, tout ici. Et tout ça, c'est le travail.
Donc, elles sont soutenues par le syndicat de la CGT, donc la section hôtelière. Et on note, en fait, dans leurs revendications, la dénonciation de leurs conditions de travail, notamment le problème de la sous-traitance, de la cadence infernale dite de l'usine, parce qu'en fait, c'est un nouveau prolétariat, hein, finalement. L'une des femmes de chambre déclare « Parfois, on pleure tellement on est fatigué ». Donc ça, c'est une citation qui vient du Monde. Elle dénonce aussi, et ça nous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les questions d'harcèlement et d'agression sexuelle. L'une d'entre elles, Baby, aurait été violée par l'ancien directeur de l'établissement. Donc ça nous rappelle un peu l'affaire DSK. Je pense que c'est important de dire leur nom, Aminata, Blanche Parfaite. Et on note quand même que dans la presse, on entend beaucoup le seul homme gréviste du mouvement.
Tiens, tiens.
La grève continue. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'hôtel les a chassés de leur parvis parce que, ben, comme les autres femmes avant elles, elles utilisaient des casseroles, des poêles pour se faire entendre. Donc maintenant, elles font grève dans le centre de Paris.
Ça fait mauvais genre pour les clients.
Bah oui, tu m'étonnes. Des gens qui réclament des salaires alors qu'on a l'habitude de les mépriser. Enfin bon, bref. Voilà, voilà.
Choquant.
Je pense qu'on peut noter que dans une interview du 23 juin en Parisien, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa s'est engagée à améliorer les conditions de travail des femmes de chambre. Elle aurait annoncé qu'elle confierait en septembre une mission au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui devrait lui faire des propositions avant la fin de l'année. Bon, c'est la fin de l'année, j'ai rien entendu, les grévistes ont été chassés devant leur hôtel. Ah, voilà, je suis un peu perplexe. Et je pense que c'est aussi intéressant de noter dans cet épisode sur les femmes grévistes que les femmes de ménage ou les agents d'entretien se mobilisent quand même assez régulièrement. Avant l'épisode des femmes de l'hôtel Ibis, il y avait les femmes du parc Hayat qui militaient également pour de meilleures conditions de salaire et qui, elles, ont réussi à faire plier des compagnies hôtelières. Donc, je voulais le dire parce que les grèves qui marchent, ça fait quand même du bien. Et puis, il y a une nouvelle grève qui est en train de se lancer, deux femmes de chambre, elles aussi syndiquées.
D'ailleurs, on les a croisées à la manifestation du 23 novembre. On écoute.
Solidarité avec les femmes de chambre.
Merci.
Visa au groupe Accor, j'ai donné.
Merci.
Vous faites ensemble, vous avez mes encouragements.
Merci beaucoup.
Solidarité avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, en grève depuis 4 mois et demi.
Merci beaucoup.
Et alors, du côté des grèves féministes, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais une a eu lieu le 14 juin dernier en Suisse.
Mouvement inédit depuis 28 ans pour dénoncer notamment les différences salariales, moins 20% en moyenne chez les femmes.
D'ailleurs, il y en avait déjà eu une précédemment en 1991 qui avait été un succès. Alors certes, la Suisse est un pays prospère, mais paradoxalement très en retard en matière de droits des femmes. D'ailleurs, elles ont eu le droit de vote en 1971. C'est quand même un truc de fou.
Oh là là.
Et l'avortement a été dépénalisé en 2002. Donc,
2002?
What the fuck? Bienvenue en Europe.
Ouais.
Et donc cette année, une grève a été organisée pour protester notamment contre les écarts de salaire qui sont de 12%. Donc c'est à peu près pareil pareil qu'en France, contre le travail gratuit, les inégalités face aux retraites. Et il faut noter que ce n'est pas nécessairement les mêmes méthodes qu'en France qui ont été employées, puisque là, il y a eu des pique-niques géants, des concerts, des distributions de badges, des balles. Les tramways ont été bloqués à Zurich. Un clitoris géant a été mis en circulation. La cathédrale de Lausanne a été illuminée de rose et un point levé géant a été projeté sur un gratte-ciel à Bâle. Donc tout ça, c'est des chouettes initiatives. Et même la ministre de la Police et de la Justice, donc Simonetta Sommaruga, a salué les militantes à la gare, ce que je trouve assez cool. Et donc, selon l'Union syndicale suisse, environ 500 000 personnes au total auraient participé d'une manière ou d'une autre à cette grève.
Mais c'est énorme pour la Suisse en plus.
C'est énorme, voilà. On peut en prendre de la graine.
Ouais, c'est clair. Je pense que c'est important aussi de parler de cette méthode parmi les outils de la grève et des grèves féminines et féministes. C'est les grèves du sexe. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est la grève du sexe? C'est souvent arrêter tout rapport sexuel avec son compagnon. Et ça vient notamment de la pièce Lysistrata, de la pièce d'Aristophane. Et je veux noter quelques exemples de grèves du sexe à travers l'histoire et à travers les continents. Donc, autour de 1530, t'as les femmes du Nicaragua qui luttaient contre l'esclavage et la traite des colons espagnols qui ont organisé une grève de l'utérus. En gros, c'était pas une grève qui était organisée contre leurs époux, qui étaient eux-mêmes esclaves. C'était en fait une grève qui visait les colons et les négriers qui prenaient leurs enfants pour les mettre en esclavage. Donc en fait, c'était une grève, c'est horrible à dire, hein, mais presque de travail, contre le travail et l'exploitation de leurs outils reproductifs.
Et alors en 2003, on en a aussi beaucoup entendu parler au Liberia où les McBowie a organisé une grève du sexe qui a en partie permis d'arrêter la guerre civile, donc c'est quand même pas mal. Mmh. Ensuite, elle a même reçu le prix Nobel de la paix. Donc en fait, ça a surtout été d'abord un moyen de faire dialoguer ensemble des femmes qui étaient issues de groupes ethniques ou religieux différents et qui évidemment ne se parlaient absolument pas. Elle leur a expliqué que leur religion pouvait en fait leur donner du pouvoir au lieu de les effacer. Donc quand les femmes ont pu enfin se parler entre elles, par-delà leurs croyances, elles se sont mises à protester sans violence, elles ont envahi l'espace public. Et en fait, voilà, le motif de la grève du sexe a aussi été un peu un prétexte pour attirer de l'attention médiatique. Et vous pouvez retrouver toute cette histoire dans un documentaire qui s'appelle « Pray the Devil Back to Hell ».
And it was like a crazy dream. We decided to protest. We wore the white, saying to people we were out for peace.
Ce qui est intéressant en fait avec la grève du sexe, dans les exemples qu'on a montrés, c'est que c'est un outil de désobéissance civile passive qui a été utilisé sur plusieurs continents par les femmes pour manifester leur mécontentement et notamment en fait dans des sociétés patriarcales ou du moins dans des sociétés où les femmes sont inaudibles et où elles sont maintenues hors des sectes de pouvoir. Là récemment, il y a l'actrice Alyssa Milano de Charmed,
le pouvoir des trois nous libérera,
qui a été très engagée sur les questions de harcèlement sexuel notamment au sein du mouvement MeToo, qui a appelé à la grève du sexe dans un tweet pour lutter contre les remises en cause du droit à l'avortement dans plusieurs États américains.
Oui, effectivement, c'est une proposition qui a reçu des réponses assez variées. Elle a été notamment très critiquée par les personnes LGBT+, comme n'étant pas inclusive, puisque tout le monde n'est pas hétérosexuel.
Now, Milano's sex strike has received criticism from many sides of the conversation, including that it ignores the LGBTQ community.
Il y a aussi une journaliste du magazine Beach qui a répondu que, en fait, le but, a priori, c'est que les femmes puissent disposer de leur corps et de leur sexualité, et que donc, si des hommes ne respectent déjà pas le consentement, on ne voit pas trop pourquoi ils pourraient respecter la grève du sexe. Donc voilà, elle pointait un peu les contradictions.
Et les limites, en fait, finalement.
Voilà, de cette proposition. Et alors, en France, peut-être que ça ne vous a pas échappé, une grève féministe se prépare pour le 8 mars 2020. Elle va tomber un dimanche, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas participer. C'est le collectif On Arrête Toutes, que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui organise. D'ailleurs, il y a déjà eu une réunion d'organisation à la Bourse du Travail à Paris. Et donc, cette mobilisation, heureusement, va se faire avec les femmes qui sont déjà en grève dans des secteurs précarisés. Donc, on vous en reparlera au moment du 8 mars et on y sera, on espère que vous aussi. Et alors, du côté de nos expériences perso, as-tu une longue expérience de gréviste, Kémis ?
Bah, en fait, pas vraiment. J'ai plus une expérience de, entre guillemets, vraiment beaucoup de guillemets, subir la grève. Pendant longtemps, ou quand j'étais plus jeune et moins politisée, je voyais ça comme quelque chose de négatif. Mais en fait, quand tu regardes historiquement, et encore plus après cet épisode, on a pu obtenir pas mal de choses grâce aux grèves. Puis cet été, j'ai eu la chance d'écouter Madame Toukara, donc, qui lutte pour avoir de meilleures conditions de travail donc à l'hôtel Ibis, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, elle disait que même à travers la grève, au-delà même de la lutte pour les meilleures conditions de travail, elle luttait parce qu'elle réclamait en fait le respect et la dignité de ses employeurs, tout simplement. Donc, je trouve que c'est carrément positif. Ensuite, j'ai pas d'expérience de gréviste, mais je pense que c'est lié au fait que je ne suis pas syndiquée. Donc, ça, ce serait aussi intéressant d'en discuter. Et je vois bien, en fait, que les grèves qui sont les plus efficaces et celles qui m'inspirent, ce sont celles qui sont organisées par des collectifs, que ce soit des collectifs féministes ou des syndicats. On voit bien, même aux USA, avec les grèves des profs, etc., c'est quand même des choses qui sont organisées. Et j'espère, ou peut-être, que la grève va retrouver un retour de hype chez nous.
Mmh. Oui, c'est vrai que tu as raison de souligner l'importance du collectif. Ouais. Et moi aussi, de mon côté, je pense comme tout le monde, j'ai la même image que toi, l'image médiatique de la grève. Donc, c'est celle des usagers mécontents, qui est vraiment un marronnier. Et moi, je trouve ça limite poujadiste, en fait, de dresser les gens les uns contre les autres en disant que ça nuit aux petits commerçants et aux personnes précaires, alors que c'est justement les personnes précaires qui font grève et qui en ont le plus besoin.
Vraiment.
Voilà. Après, c'est vrai que quand on va à l'étranger, on se rend compte qu'on a pas mal de chance en France parce qu'on a vraiment cette culture-là, une culture de la grève, et parce qu'on est éduqué et politisé souvent plus jeune. Moi, je me souviens d'avoir soit fait grève, soit participé à des mobilisations collectives dès le lycée ou à la fac. Et d'ailleurs, c'est un très bon moyen de socialisation, je pense, avec des gens de son âge. Et j'ai toujours trouvé que c'était totalement normal. D'ailleurs, je me souviens que j'avais 12 ans au moment des énormes grèves contre Juppé en 1995. Oui, je suis vieille. Et à l'époque, je trouvais que c'était hyper excitant, quoi, même si je comprenais pas très bien les tenants et les aboutissants de tout ça.
Voilà. Ah, c'est vrai, et puis il y avait de ces peurs. Oh là là, j'étais tellement jalouse, je voulais faire grève moi aussi, pas aller en cours.
Ah ouais, bah moi du coup j'étais à la fac, donc j'avais pas cours, effectivement.
On s'écoute le témoignage de la poétesse afro-américaine Sonia Sanchez, qui est une star de la littérature aux États-Unis et qui publie une traduction de ses textes aux éditions de l'Arche, prochain arrêt Le Bronx et autres pièces. Et dans un extrait sonore, elle nous parle de l'exemple des manifestations pour les droits civiques aux États-Unis. Au micro de Clémence Alezard.
Because I was initially in the civil rights movement, and the civil rights movement was not necessarily a movement would say, would write that kind of thing or say that kind of thing. But I was in something called New York Core, which was a very progressive organization. They sent people south, you know, to integrate the buses, you know, travel. We integrated the same thing in New York City. We integrated the unions, brought in Black and Puerto Rican men at that time, because they weren't even taking women in at that point. And one of the things being in a movie is that in the States, there were always women, you know, in the movement. SNCC had probably more women than men in it in the South. In the Black arts movement, there were probably more men than women writers. I was one of the first writers involved with the Black arts movement, but there were women who wrote, you know, in the country. And as a consequence, one of the things we were interested in was, of course, our function in the state and in the country. But we women also began to talk about our function within family, our function within a city, our function within jobs. So we were always, we kind of veered off just the idea of the function in the state or in the Congress or as president. But we began to pick up the issues about the function of us as women who were going to have children, what that meant in terms of schools, what that meant in terms of unions, what that meant in terms of how we were going to live and how we were going to love and how we were not going to love quite often. So there were many kinds of extensions with us as women.
Oui, donc pour traduire en français, voilà, elle nous a parlé de son militantisme. Elle dit qu'elle a intégré le collectif CORE, donc c'était un collectif à l'époque pour les droits civiques à New York, qui en fait envoyait des gens, donc des personnes racisées, vers le sud pour aider à l'intégration, pour manifester dans les bus, et aussi à New York pour pouvoir intégrer et rejoindre des syndicats, puisqu'à l'époque, les syndicats déjà n'acceptaient même pas les femmes. Donc elle dit qu'il y a toujours eu des femmes dans ces mouvements-là aux États-Unis et qu'elle, en tant qu'artiste, elle a participé à ce qu'on appelle le Black Art Movement et que les femmes autrices et artistes, à ce moment-là, ont commencé à s'intéresser à leur place à la fois dans l'État américain, mais aussi au sein de la famille, dans leur travail, sur comment gérer l'arrivée des enfants, comment aimer, être en couple, etc.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Et alors, dans la pop culture, il y a des films qu'on connaît, par exemple, comme Hunger.
There's no such thing as political murder, political bombing or political violence. There's only criminal murder, criminal bombing and criminal violence. We will not compromise on this.
Qui rendent hommage à la grève de la faim. Donc, dans ce cas précis, c'était Bobby Sands, le militant irlandais. Mais du côté des femmes, on manque un petit peu d'exemples. On peut se souvenir du roman Germinal d'Émile Zola. Est-ce que tu veux lire l'extrait ?
Les femmes avaient paru, près d'un millier de femmes, aux cheveux épars, dépeignés par la course, aux guenilles montrant la peau nue. Les nudités de femelles lassent d'enfanter des mœurs de faim. Quelques-unes tenaient leur petit entre les bras, le soulevaient, l'agitaient ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance. D'autres, plus jeunes, avec des gorges gonflées de guerrières, brandissaient des bâtons, tandis que les vieilles, affreuses, hurlaient si fort que les cordes de leurs cous décharnés semblaient se rompre.
Alors, empathie, mépris de classe, misogynie.
Je pense que c'est un mix des trois. Misogynie, clairement.
Ouais, c'est assez surprenant quand même pour Germinal. Bon, et plus proche de nous, la chanteuse Janelle Monae, qu'on aime beaucoup, a elle aussi, comme Alyssa Milano, appelé à une grève du sexe. Donc ça, c'était en 2017, dans Marie-Claire. Moi, de mon côté, je recommanderais un documentaire qui n'est pas spécifiquement sur la grève, mais sur des ouvrières d'une usine de lingerie qui vont reprendre en main, c'est le cas de le dire, leur usine pour fonder une SCOP. Donc c'est le film Entre nos mains de Mariana Otero et c'est vraiment, vraiment très chouette.
Pas seulement l'argent, hein. Si ça marche pas, tu perds tout, quoi.
Et vous, aujourd'hui, vous me demandez, alors qu'on ne sait pas si la SCOP va passer ou pas, de vous dire si on va continuer ensemble.
Moi, je recommande le documentaire qui s'appelle On a grévé, sur la lutte des femmes de ménage de 2014 qui luttaient pour des meilleures conditions de travail dans l'hôtel Campanile.
Alors, il y a un autre film qu'on peut mentionner. C'est pas un grand film, mais je pense qu'il a un intérêt, en tout cas historique. C'est We Want Sex Equality. Je sais pas si tu l'as vu.
J'ai vu le début, mais après, je t'avoue que...
Bon, ne vous laissez pas décourager. Donc, ça parle de la grève des ouvrières d'une usine Ford en Angleterre en 1968. C'est une grève qui commence, comme tant d'autres, avec beaucoup d'indécision et sans trop savoir où ça va. Et, spoiler, qui va aboutir à des lois sur l'égalité salariale en Angleterre. Donc c'est quand même très
grève, ça marche.
Voilà, très un très bon exemple.
Ouais. Everybody
out. Equal pay. Christ. À cette occasion, j'ai aussi retrouvé une critique très tendancieuse publiée dans Le Point qui dit « Sexe et lutte sociale, le mélange fait bon ménage dans le cinéma anglais populaire qui sait rendre la travailleuse drôle, sexy et émouvante. Rien à voir avec un documentaire d'Arte sur la grève chez Lip. »
Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit sexy, quoi. Genre, en fait, c'est pas le sujet.
C'est ça. Genre, tu sais, tu crèves la dalle, mais n'oublie pas d'être sexy.
Mais n'oublie pas d'avoir du rouge.
C'est ça.
Non, mais ridicule, quoi.
Bon, et alors, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci ?
Moi, je recommande un livre qui est sorti il y a plutôt longtemps, mais que j'ai redécouvert, qui est « Des luttes et des rêves », le gros bouquin de l'historienne Michèle Zancarini-Fournel, qui justement étudie les luttes des personnes minorisées. Et je trouvais que ça collait très bien à notre épisode. Je le conseille, mais surtout, je pense que c'est un livre, parce que c'est un livre d'histoire qui peut être un peu rebutant, temps, de le prendre un peu comme une encyclopédie, en fait. Tu ouvres une entrée, tu lis peut-être un article, tu le reposes, etc. C'est pas un truc que tu lis en une fois, mais je le trouve super intéressant. Et toi, du coup, Clem, tu me proposes quoi ?
Alors, je te propose pour tes courses de Noël, si tu fêtes Noël, ou Hanouka, ou rien du tout, un recueil de nouvelles qui a très bien marché aux États-Unis, et c'est très rare quand même dans le milieu de l'édition que les nouvelles marchent bien. C'est Son corps et autres célébrations de Carmen Maria Machado aux éditions de L'Olivier. C'est vraiment l'une des autrices très prometteuses en ce moment. D'ailleurs, elle vient de sortir son deuxième livre en anglais, mais là, c'est sa première publication. Elle est passée par le cours d'écriture très prestigieux de l'Iowa Writers Workshop. Et elle pratique ce qu'on appelle le réalisme magique, mais pour parler des questions de genre, des questions de race et des minorités LGBT+. Donc c'est parfois de l'anticipation, parfois de la SF. En tout cas, c'est des textes qui sont courts et très surprenants. Donc elle raconte ce que c'est, par exemple, d'être une femme seule pendant l'apocalypse. Il y a aussi l'histoire d'une femme mexicaine qui n'a pas de tête. Une autre qui va se faire opérer pour qu'on lui coupe l'appétit. Voilà, donc c'est vrai que ça parle beaucoup de violence faite au corps féminin, mais sans jamais le dire. Voilà, c'est dit à demi-mot. Il y a même une nouvelle qui s'appelle Le Point du Mari.
Ça a l'air trop bien.
Voilà, donc c'est des nouvelles un peu d'horreur sur le corps féminin et je vous recommande. D'ailleurs, beaucoup de gens me l'ont recommandé et je trouve que c'est vraiment de très très haute qualité.
Voilà. Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute.
Alors, on va répondre à une question d'auditrice. Donc, bonjour Dress to Kill, tu nous écris. Salut Quad Meuf, cette semaine j'ai discuté avec ma mère du fait qu'Angèle avait peut-être fait son coming out et elle m'a sorti tranquillement, je l'écouterai plus. Avant on se reconnaissait dans ses paroles, mais le fait qu'elle soit lesbienne, j'ai pas envie de m'identifier à elle. Je trouve ça choquant, tu m'étonnes, et j'ai pas su quoi répondre tellement je suis abasourdie. Help.
Donc pour les... auditeurs et les auditrices qui ne savent pas de quoi on parle, par exemple mes parents. Cette personne fait allusion donc à Angèle, la chanteuse belge, qui a sorti la suite de son album Brawl le mois dernier, et elle avait aussi enregistré la chanson Taren, donc qui parle d'une relation amoureuse lesbienne.
Mais tu voudrais qu'elle soit Taren ce soir, même si de run c'est pas trop accepté.
Elle a aussi récemment été outée par le magazine Public, donc avec sa conjointe. Voilà, sympa. On ne savait pas que ça se pratiquait encore.
Je te jure.
En tout cas, sympathique petit moment de lesbophobie familiale avec ta mère, qu'on mettra peut-être sur le compte du décalage entre les générations, je ne sais pas. Moi, je lui répondrai ce que dit la comique et comédienne Fadili Camara dans son spectacle. Elle dit, en fait, on regarde bien Avatar en s'identifiant, alors que pourtant, c'est des extraterrestres bleus. Donc,
même Disney, enfin. Cars, c'est voilà. Des voitures qui
donc
parlent.
En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'identifier ou pas ? Si c'est un problème, je ne crois pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que effectivement c'est chaud. On est souvent sidéré parce que les gens sortent et surtout quand ça vient de la famille, de la mère, souvent on l'admire et du coup ça nous fait un peu un choc. Et si t'es prête à rentrer dans un débat avec elle, tu peux lui dire en fait j'arrive pas, juste pas à comprendre comment on peut pas s'identifier à quelqu'un à cause de son orientation sexuelle ou à cause du fait qu'elle a choisi d'aimer une personne de même sexe. Je pense que c'est important parfois de renverser l'absurde et de comprendre, au-delà même de l'indignation qui est très légitime qu'on peut avoir, juste dire « mais en fait, je comprends pas. Comment tu fais ? Je comprends pas. D'un coup, comme ça, non. »
Voilà. Qu'est-ce que ça change en plus ?
En fait, ça change absolument rien.
Surtout quand on écoute le point sonore des Lilas, on n'est pas obligé de travailler dans le métro pour comprendre de quoi parle la chanson. Donc en fait.
Des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous.
Encore une fois, je simule même pas en fait mon aberration parce que je me dis, mais en fait, ça change quoi ? Enfin, du coup, elle écoute pas les chansons anglaises parce que elle galère en anglais. Enfin, j'en sais rien en fait. Je pense que c'est important de noter la fermeture d'esprit. Je sais quoi. Enfin, c'est même pas une fermeture d'esprit, c'est juste, mais c'est un être humain, je sais pas.
Oui. Bon, bah, bon courage en tout cas avec ces débats familiaux.
Lors du repas dominical.
C'est ça, et des fêtes de Noël. En tout cas, nous, on a un peu fait le tour de la question. Vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux, @quadmeuf, nous dire si vous allez ou non participer à la grève du 5 décembre, si vous avez ou non participé à des grèves féministes, par exemple. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la description de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Salut, Kémis.
Salut, Clem.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo.
Présenté par Kémis.
Monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Prise de son et coordination, Ashley Tola.